Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une histoire tirée du livre de Maître Mot qui paraît aux éditions Les Arènes. Maître Mot, de son vrai nom Jean-Yves Moyard, était avocat au barreau de Lille et très présent et donc très célèbre sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Décédé en février 2021, il nous a légué dans son livre qui vient de paraître tout un tas d'histoires dont il a été le témoin et l'acteur. Celle qui va suivre est profondément bouleversante et elle est aussi, je vous préviens, très violente à ne pas mettre dans toutes les oreilles. C'est l'histoire de trois SDF qui en martyrise un quatrième. Et pour débriefer cette histoire, j'ai fait appel à un autre avocat, ténor du barreau de Lille, Maître Franck Berton, que je salue. Bonjour Franck.
Bonjour Monsieur Ondelatte.
Et à tout à l'heure, j'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Ils sont trois. Ils ont entre 25 et 28 ans. Noël, son épouse Laurie, dont le QI atteint péniblement les 10 ou 12. Et Denis, un débile profond qui présente la triple particularité d'être muet, de mesurer 1m52 et de fumer constamment. Un matin, il trouve dans la rue encore plus pauvre, encore plus idiot et surtout encore plus malheureux qu'eux. Gérald, une sorte de rugbyman magnifique, réellement beau, mais sale, aussi peu intelligent qu'eux, totalement perdu et presque enfantin. Il partage deux packs de bière avec lui, eux ils disent pacte de bière. Et il lui propose le paradis. Et tu veux pas venir vivre avec nous? Où c'est qu'on habite? On a un appartement. Il sourit comme un enfant, Gérald, vous pensez? Et il les suit, heureux. Il cesse de l'être quand il débarque dans le logement social du trio. Une porcherie, dépourvue du moindre meuble, à part deux sacs poubelles remplis d'habits d'hiver et trois matelas défoncés d'une saleté répugnante posés à même le sol, au milieu de détritus et de poubelles vides. Avec, au milieu de ça, une oasis, une unique oasis, 2 mètres carrés qui ont été nettoyés, avec une fenêtre au-dessus qui est la seule à avoir été frottée au chiffon. Et au centre, un landau, violet double place, et à l'intérieur, paisiblement endormis, les jumeaux, Kevin et Samantha, 8 mois. Étonnamment, ils sont dodus. Et ils sentent bon. Dans le panier de leur landau, il y a des biberons, des lingettes, des couches, du liquide physiologique, du savon pH neutre. Alors que dans le reste de l'appartement, il n'y a ni brosse à dents, ni serviette hygiénique, ni liquide vaisselle, ni la moindre feuille de papier toilette. Et Gérald, quand il voit ce landau, il sourit d'une oreille à l'autre. C'est la plus belle chose qu'il ait vue depuis longtemps. Et naturellement, il veut s'avancer pour les voir de près, pour s'attendrir un peu. Mais il ne fait pas 2 pas. Noël hurle. Allez, tape ! Et Denis, lui obéissant comme d'habitude, instantanément, attrape un tube de métal qui est posé dans le coin de l'entrée et bim ! Il le frappe de toutes ses forces aux jambes. Et Gérald s'écroule en hurlant, transpercé par une douleur fulgurante. C'est ce que ça fait, une jambe cassée d'un coup de morceau de gouttière. Et c'est là, allongé dans la merde, que Gérald comprend que ses nouveaux amis ne sont pas des amis. Noël s'agenouille à côté de son visage. Tu sais l'idée qu'on a eue quand on t'a vu dans la rue? Ah bah que tu vas être notre esclave. Hein? À partir de maintenant, tu fais tout ce qu'on te dit. Et nous, on a le droit de te taper comme on veut. Et si tu cries, c'est pire. Tu obéis, tu cries pas, tu te laisses faire, et surtout, t'approches pas les bébés. Et pour manger, t'auras les restes. T'as compris?
Oui, j'ai compris.
Non, t'as pas compris, sinon t'aurais dit « Noël, j'ai compris !» Et là, Noël lui écrase sa cigarette sur la joue, juste sous l'œil droit. Gérald hurle. Noël s'assied sur lui à califourchon, il sort son briquet, et il lui brûle l'oreille droite, longtemps.
« Je t'ai dit de pas crier. T'as compris maintenant ?»« Oui. Noël, j'ai compris, Noël. »
Il faudra un certain temps pour que Gérald parvienne à ne plus crier. Le temps que mette une oreille humaine à brûler complètement. Son martyre va durer 2 mois. Sur ordre de Noël, Denis a fabriqué une sorte d'attelle pour la jambe de Gérald, avec 2 bouts de balai. C'est la seule fois qu'ils le soigneront, à part pour une autre brûlure dans le dos, faite avec une résistance électrique de barbecue, sur laquelle, effrayés par les marques profondes, ils poseront des tranches de pommes de terre. Ils lui ont attribué un coin dans l'une des deux chambres, un coin où il dort à même le sol, sans vêtements ni couverture. Au réveil, il lui urine dessus alors qu'il dort encore. Et l'après-midi, après leur sieste, quand ils se remettent à boire, ils s'en prennent à sa saleté, à son odeur, qui est effectivement épouvantable. « Bon, c'est-à-dire on voulait le laver. Il puait, il avait des poux. » Il lui faut aussi souvent couler de la cire de bougie sur tous les endroits poilus du corps. Après, ils attendent que la cire sèche sur la brûlure, et ensuite ils arrachent la croûte brutalement. Parfois, ils l'enlèvent avec une lame de rasoir. Ça lui fait des entailles. Mais il n'a pas non plus le droit de saigner. « Mais arrête donc avec ton sang qui coule, là ! Ça tâche !» Alors, pour cautériser ses blessures, ils utilisent du sel, de la moutarde ou de la merde. Et puisqu'il a des poux, ils lui arrachent ses mèches de cheveux. Et comme son haleine est fétide, ils lui font boire toutes sortes de produits détergents. Et notamment, une fois, de l'eau de Javel pure. Lorsqu'il a une saleté à un endroit du corps, il la brûle, à la cigarette. Le médecin légiste qui examinera Gérald comptera 120 brûlures de cigarette. 120 est probablement beaucoup plus. Certaines brûlures semblent masquées par d'autres lésions beaucoup plus larges. Et puis un soir, Denis trouve une utilité à son oreille gauche. Pas la droite, hein. Ils l'ont déjà brûlée. On va en faire un calendrier, hein? Et on va étaler tout le club dedans. Gérald a aussi l'ordre d'uriner et de déféquer là où il dort. On retrouvera d'ailleurs le sordide matelas couvert de matière fécale comme moulé autour de l'empreinte de son corps. Ils lui mettent aussi régulièrement le manche à balai dans l'anus. Oh mais ça, c'était pour lui laver le cul. J'arrête là l'inventaire terrifiant des étapes du calvaire de cet homme. Et pourtant, Noël et Denis sont 2 gringalets, plutôt maigres et pas très grands, alors que Gérald, lui, fait près de 100 kilos pour 1,90 m. Il n'en ferait qu'une bouchée. Il n'en aura jamais l'idée, comme un enfant qui n'ose pas s'opposer physiquement à son père. Ah, pour être complet, Noël s'est fait faire une procuration. Et tous les mois, il va retirer l'allocation de Gérald à la poste. Denis, un jour, trouve que ça suffit.
« Oh, mais il y en a marre de Gérald, là. Faut s'en débarrasser. Ah, mais moi, je suis bon de corps. Il peut encore servir. Et puis, il y a les allocs. Il faut s'en débarrasser, je te dis. Il va finir par crever dans l'appartement. »
On demande son avis à Laurie.
« Oh, bah, c'est mieux pour lui. Il est tellement esquinté. Vaut mieux en finir. »
Mais c'est Noël qui tranche.
« Bon, ben d'accord. On le tue ce soir, et puis c'est tout. »
Toute cette conversation a lieu devant lui, devant Gérald, qui ne dit rien, comme toujours. Il est convenu de l'amener au bord de la Deule, le fleuve qui traverse l'île.
« Oh, mais dans le temps qu'il est, et l'eau comme elle est froide, bon, il va couler. Au cas où, on va lui mettre des pierres aux pieds. »
S'ensuit une sorte de dernière heure d'un condamné à mort. C'est-à-dire qu'il sacrifie une boîte de pêche au sirop, et il la lui offre. Laurie lui lave le visage, il l'habille des mêmes fringues qu'il portait le premier jour, qu'il n'a jamais remises. Il lui offre une cigarette, et ils se mettent en route, y compris Laurie et les 2 bébés, dans le landau.
« Oh ben on va quand même pas le laisser tout seul !»
Il l'amène au bord de l'eau glacée. Denis le frappe de toutes ses forces. Il le soulève.
Allez, une, deux et trois.
Et il le jette dans l'eau noire. Depuis sa fenêtre, Raymonde, qui habite à côté et qui a vu sur la Deule, a tout vu. Elle descend son escalier aussi vite qu'elle peut, elle ouvre sa porte et elle lâche son chien.
« Allez, Rex, vas-y, attaque !»
Quand les autres voient débouler le kleps, ils détalent. Et quand Raymonde et son mari arrivent au bord de la Deule, ils voient d'abord un landau avec deux bébés endormis. Et puis un homme, dégueulasse et tout plein de sang, trempé, allongé sur le sentier, conscient, mais qui a l'air complètement dingue. Noël est arrêté 2 heures après, être venu demander aux policiers qui gardent l'endroit si on savait ce qu'étaient devenus les jumeaux dans la poussette. Laurie est interpellée chez eux juste après, et Denis se livre le lendemain après une nuit passée dehors. L'instruction dure 1 an et demi. Pendant tout ce temps, Noël et Denis restent en détention provisoire. Ils sont mis en examen pour actes de torture et de barbarie commis en réunion sur personnes particulièrement vulnérables et ayant entraîné une mutilation, pour viol ayant été précédé, accompagné ou suivi de torture, et pour tentative d'assassinat. Tentative, oui, uniquement parce que Gérald a survécu. Laurie, elle, n'est poursuivie que pour complicité de tentative d'assassinat et non-assistance à personne en danger. Incarcérée au départ, elle est libérée au bout de 4 mois. Ils encourent tous les trois la réclusion criminelle à perpétuité, la vraie, celle qui est assortie d'une période de sûreté pouvant atteindre 22 ans. Gérald, lui, mutilé à l'oreille droite, est soigné pour tout le reste. Il n'a plus qu'une oreille et un trou à la place de l'autre, un trou qu'il couvre avec ses cheveux longs. Les expertises psychiatriques et psychologiques réalisées sur lui sont absolument sans appel. C'est une personne particulièrement vulnérable, atteinte d'une débilité légère. Alors j'ai établi son QI qui pourrait être comparé à celui d'un enfant de 14 ans. Son préjudice moral est considérable. Et il y a évidemment nécessité d'une prise en charge psychologique durable. Gérald guérit physiquement, petit à petit. Et il se constitue partie civile. Et moi, maître Mot, je suis commis d'office pour défendre Noël. Pour dire la vérité, à cette époque-là, je suis un jeune avocat. Et je veux défendre des types comme lui, le plus possible. Et toute ma vie, même Noël, qui aurait été enfanté par Frankenstein et Nosferatu s'il leur était venu la mauvaise idée de copuler. Même si Noël ressemble à un monstre. Bonjour, monsieur. Lors de notre première rencontre en maison d'arrêt, je découvre ce type qui est physiquement repoussant, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un vampire, à un type qui me fout les chocottes rien qu'à le voir. Et je suis son avocat.
Oh, bonjour, maître. Alors, on envoie les genoux à la corvée? Ça va? Vous avez trouvé facilement?
Je connaissais déjà, monsieur. Bon, on a un peu de boulot, je crois.
Il a une 30aine d'années, des cheveux blonds naturels, hein, mais qui ont l'air teints, des cheveux longs, filasses, disséminés partout finégales, qui lui pendouillent dans la nuque et sur le front, et qui, propre ou pas, ont l'air d'être sales. Et un front, l'un des plus hauts fronts et bombés qu'il m'ait été donné de voir. Je pense tout de suite à un muséum d'histoire naturelle, section préhistoire.
Un front qui appartient à un visage livide, inséré dans 2 fentes obscures, ses yeux, dépourvus de la moindre lumière. Ses lèvres sont fines, elles s'entr'ouvrent sur des dents jaunâtres et irrégulières, et sa barbe ressemble à du duvet clairsemé, qui lui ajoute une petite touche de saleté dont on se passerait bien. C'est en lui serrant la main que j'aperçois les siennes, fines, les doigts presque transparents, comme des mains de femme. Si les ongles n'étaient pas jaunes de tabac, longs, cassés et d'une saleté repoussante. Et il faudra que je vous achète des lingettes, je vous les apporterai. Bref, je me dis qu'il va falloir beaucoup travailler d'ici à l'audience, y compris sur l'hygiène, parce que là, dans le petit local du parloir avocat, il pue. Je suis son avocat, et je vais devoir m'ébrouer, sortir de mes petites réflexions désobligeantes d'intellectuel propre sur lui, pour revenir définitivement à ma mission, défendre un homme. Car évidemment, c'en est un. Et je dois absolument tenter de le comprendre, essayer de rentrer dans sa tête, pour être en mesure d'expliquer le mieux possible le moment venu. Ces carences extrêmes, intellectuelles, affectives et humaines ne sont évidemment pas une surprise. Dès que des crimes prennent une certaine ampleur d'atrocité, les ingrédients sont presque toujours les mêmes. Mes parents ? Oh, je les connais pas, mes parents, moi. Et l'école, Noël ? Ça a donné quoi, l'école ? L'école ? Oh, je suis pas resté longtemps. Et après, j'ai vécu dans la rue. Parlez-moi de votre femme, Laurie. Depuis quand la connaissez-vous ?
Oh, Laurie ! Depuis 2 années. C'est la seule femme que j'ai eue. Mais attention, je l'aime. C'est une sacrée mère, hein, impeccable.
Noël a connu 0 tendresse jusqu'à Laurie. Parlez-moi de vos enfants.
Mes enfants ? Les jumeaux ? C'est un accident. Oh, mais je le regrette pas, ça non, hein. C'est ça qui me manque le plus depuis que je suis en prison. Mes gosses, qui sont placés là, et que je peux plus les voir.
Alors maintenant parlons des faits, Noël, de ce qui s'est passé avec Gérald.
Il n'y avait rien de vraiment prévu. C'est venu comme ça, quoi. La première fois, c'est parce qu'il s'est approché des petits. Et après, c'est parce qu'il était sale, quoi.
Devant le juge, il reconnaît tout en détail.
Alors, monsieur, pourquoi la cire brûlante sur son corps ?
Il était sale de jambes. Alors on a pensé l'épiler.
Et les entailles au rasoir ?
Des fois, ça portait pas. Alors on insistait, quoi.
Et la javel dans la bouche ?
Il sentait vraiment de la bouche, alors.
Et le balai dans l'anus ?
Il sentait vraiment du fondement, hein. Alors.
Et à chaque fois que le juge lui demande s'il n'y avait pas moyen de faire autrement, s'il n'y avait pas là du sadisme, l'envie de faire très mal, il répond toujours.
Ah ça non ! Pas du tout ! C'était pour son bien qu'on faisait tout ça. Une éducation à la dure, rien de plus.
Pour son bien ? Mais les cigarettes écrasées dans l'oreille, monsieur. Là, ça n'est pas pour son hygiène, n'est-ce pas ? C'est d'ailleurs très peu hygiénique, les cigarettes dans l'oreille. Non ?
La réponse de Noël me fait rire jusqu'aux larmes. Moitié par épuisement, moitié par surprise. Et surtout en voyant la tête du magistrat.
C'était parce qu'on n'avait pas de cendrier.
Ça sera sa seule réponse. Il refusera toujours obstinément de dire que Denis et lui ont trouvé rigolo au minimum de faire du mal à Gérald. Et qu'en réalité, il voulait le dominer totalement, régner sur lui, tel des borgnes au royaume des aveugles. Et pourtant, il faut qu'il parvienne à assumer ses actes. Parfois, en off devant moi au parloir, il reconnaît du bout de son absence de lèvres que oui, écraser ce pauvre bonhomme le faisait exister, se sentir plus puissant. Tout au long de l'instruction, je l'avoue,
j'ai beaucoup de mal
à avoir de l'empathie pour lui.
C'est un handicap, hein. J'en aurais besoin pour bien le défendre. Mais que voulez-vous ? La noblesse de mon métier est de prêter à cet homme tout ce que j'ai, moi. C'est-à-dire mes mots, mes outils juridiques, mon éducation, mes repères humains et mon cœur. Sous peine de ne servir à rien. Et puis arrive le jour où les trois bourreaux de Gérald comparaissent devant la cour d'assises du Nord à Douai. J'ai pu obtenir de Noël qu'il se rase à peu près soigneusement. Mais pour le reste, son physique ne s'est pas amélioré. La prison a encore renforcé sa lividité cadavérique naturelle. Coup de chance, le président est un homme profondément humain. Je sais qu'il va, avec douceur, réellement chercher à comprendre. Ce n'est pas toujours le cas. On commence, comme toujours, par lire l'acte d'accusation. Et ensuite, tous les regards se tournent vers Noël pour savoir, en gros, s'il plaide coupable ou pas. Nous avons convenu qu'il assume l'intégralité des faits et éventuellement qu'il s'adresse d'emblée à la victime pour tenter de lui demander pardon. Il se lève. Je veux dire que je suis innocent. Jusque-là, j'ai menti. C'est à cause de la police, du juge et surtout de mon avocat.
Autant vous dire que mes yeux s'écarquillent. Et là, lui commence à s'énerver, à s'agiter, à hausser le ton. Une catastrophe. Une démonstration publique de son manque de contrôle, de sa dangerosité.
Monsieur le Président, je vous demande une suspension d'audience pour pouvoir m'entretenir avec mon client.
Accordé, Maître Mo. L'audience est suspendue.
Je vais m'asseoir à côté de lui. Je sors mon paquet de camel. J'échange un regard avec le chef de poste qui me fait signe que c'est d'accord, qu'on peut fumer. Et je lui offre une cigarette. Et là, j'attends un peu qu'il se calme.
Noël, je comprends votre peur. Hein ? Je comprends ce qui se passe. Vous avez honte. Vous n'arrivez pas à assumer. Mais de toute façon, Noël, les faits sont avérés. Ça sert à rien de nier.
Et là, il se lève d'un bond. Il passe la chaîne de ses menottes autour de mon cou et il me saute dessus. Et il me fait tomber sous lui, au pied du banc.
J'en ai marre, salaud! Tu dois me défendre et pas m'accuser! Me défendre!
Il est fou de rage. Et moi, je suis coincé dessous, ma clope toujours au bec, à gigoter comme un con. Mais les flics ont entendu et ils accourent pour me délivrer. Ils s'y mettent à trois pour le ceinturer, pour le soulever et lui faire lâcher prise. Et pendant ce temps-là, j'ai le temps d'entrevoir les têtes du président, des assesseurs et de plusieurs jurés. Ils sont totalement sidérés. Quelques secondes plus tard, ils marmonnent des excuses.
Alors, monsieur, maintenant êtes-vous prêt à reconnaître les faits ?
Ben, comme il m'a dit mon avocat, ben, je reconnais les faits. Je demande pardon.
Maintenant, le procès peut réellement commencer. Quand le médecin légiste vient à la barre et qu'il énumère la litanie des blessures, je vois les jurés blêmir. La première jurée notamment, une dame d'un certain âge. Elle se lève, toute blanche.
Mais enfin, c'est pas possible!
Et elle s'écroule inanimée sur le comptoir de la cour d'assises. Et deux autres jurés font un malaise. Il faut les remplacer tous les trois. J'interroge Noël moi-même, pendant près d'une heure, sur les faits, pour qu'ils les reconnaissent tous, pour que les jurés l'entendent les assumer. Et pour qu'il constate aussi qu'il ne parvient pas à être effrayé. Et je termine mon interrogatoire par une question toute simple.
Noël, on sait ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé. Essayez de décrire à la cour ce qui aurait dû se passer normalement, si tout avait été normal depuis la rencontre de Gérald. C'est-à-dire comment ça aurait pu, comment ça aurait dû
se passer après. En réponse, je n'obtiens qu'un mutisme et le spectacle d'un front plissé. Il ne peut pas répondre à cette question, même s'il finit par murmurer.
Ben, on n'aurait pas dû lui faire du mal. Mais si on l'avait pas obligé, il serait pas resté. Je sais pas comment il serait resté.
Il est normal. Il est frustre, mais normal. Et en même temps, c'est un réprouvé, un vrai. Il ne s'est pas construit normalement, et il ne pouvait pas construire normalement. Un lâche, d'une faiblesse atroce, mais qu'on ne peut pas juger totalement délibéré. Et naturellement, c'est sur ce thème que porte ma plaidoirie. L'avocat général a demandé 30 ans pour Noël avec une peine de sûreté de 20 ans. 20 ans pour Denis avec une peine de sûreté des deux tiers et 5 ans pour Laurie. Finalement, après 4 heures de délibéré, la cour condamne Noël à 15 ans de réclusion criminelle avec 10 ans de sûreté. Denis prend la même peine et Laurie 4 ans, dont 2 avec sursis. Je trouve que c'est une peine juste. La cour a réussi à trouver l'impossible équilibre entre l'horreur des faits et la grande misère de ceux qui les ont commis. J'ai su complètement par hasard que Laurie a refait sa vie à Paris, où elle travaille après s'être remariée. Elle a récupéré il y a longtemps la garde des jumeaux, dont j'espère qu'ils grandiront normalement. Quant à Gérald, quelques années plus tard, j'accepte un jour d'assister une jeune SDF qui s'est fait rouer de coups et violer par deux marginaux qui vivaient comme elle dans la rue. Je m'installe dans la même salle d'assises de Douai et je vois arriver deux types dans le box. On les démenote. Le plus grand d'entre eux relève alors de son poignet libéré la mèche de cheveux qui pendouille jusqu'au devant de ses yeux. Et mon cœur fait un énorme bond. Gérald ! Mon confrère le défend vaillamment. Il rappelle ce qu'il a subi quelques années plus tôt, les sauvageries dans lesquelles on l'a plongé. Il est finalement condamné à 10 ans de réclusion pour viol aggravé. In the dawning, when the sky is low. On my shoulder, everywhere I go, your blue so. Voilà pour cette histoire que j'ai donc tirée du livre de Maître Mot aux éditions Les Arènes. Et je tiens à préciser, parce que les mots de ce récit étaient extrêmement crus, que je n'ai rien utilisé de plus que les mots de Maître Mot. Pour débriefer cette histoire, je suis donc avec Franck Berton, grand avocat lillois et ami, je crois, Franck, de Maître Mot. Vous le connaissiez bien?
Oui, Christophe, je connaissais bien Jean-Yves. Moi, je l'appelais pas Maître Mot, moi je l'appelais Jean-Yves ou Maître Moyard, parce que c'était pas son nom de réseau, c'était son nom d'avocat. Et c'était un avocat passionné, passionnant. C'était un grand ténor du barreau de Lille qui a sillonné beaucoup de cours d'assises. Voilà, c'était un chic type. C'était, on le voit à travers son livre, les histoires que vous avez racontées. On voit que c'était quelqu'un de passionné, qui était habité par la défense pénale, et quelqu'un qui véritablement se remettait en question à chaque affaire, parce que, comme tout avocat pénaliste, il cherchait à savoir comment il pouvait faire pour défendre.
C'est-à-dire qu'on on le voyait surtout dans les cours d'assises. Il avait cette passion de la chose criminelle.
Oui, il avait cette passion de l'homme, en fait. Vous savez, de cet homme qui peut être conduit un jour à commettre l'irréparable, à commettre le crime, et donc à comparaître finalement... devant d'autres hommes qui composent la cour d'assises, parce que on nous dit souvent, et vous devez lui dire que, ah, comment vous faites pour défendre ces monstres? Bon, les gens qu'on défend ne sont pas des monstres, ce sont des gens qui sont avant tout des hommes, sinon ils ne seraient pas jugés par des hommes. On ne juge pas les monstres devant les cours d'assises, on juge des hommes, et c'est bien pour ça que souvent la peine est acceptée et qu'elle est surtout prononcée. Donc Jean-Yves, il avait véritablement cette conviction qui l'habitait d'aller exposer devant le jury populaire, devant la cour d'assises, qui était l'homme qu'il défendait, pourquoi il avait commis le crime, et puis quelle devait être la réparation, parce que il proposait, ça lui arrivait, la réparation juste.
Les gens, j'imagine, beaucoup de mal à comprendre cette attirance pour la cour d'assises, sachant par ailleurs que certains de vos collègues disent « mais pourquoi ils choisissent ça ? C'est ce qu'il y a de moins rémunérateur dans le métier d'avocat. On se couche à pas d'heure, là vous êtes sorti quelques minutes pour parler avec nous d'une audience devant la cour d'assises, vous y êtes peut-être jusqu'à minuit, et peut-être que le verdict tombera à 4 heures du matin. Pourquoi est-ce qu'on choisit cette part du métier qui est la moins rémunératrice, qui est la plus dure ?
Christophe, c'est une vraie question, c'est compliqué, parce que c'est vrai que on côtoie parfois la misère, on côtoie l'indescriptible de la nature humaine. C'est compliqué d'aller rechercher au fond des entrailles d'un individu les raisons de son crime, parfois le crime le plus atroce soit-il. Et puis c'est vrai qu'au niveau du rythme de travail, c'est compliqué. La cour d'assises, c'est des débats riches, longs, où finalement très souvent il n'y a que des larmes, des pleurs et puis beaucoup de souffrance. Alors écoutez, c'est tout, c'est une vocation, c'est une envie, et puis c'est aussi finalement une gymnastique à laquelle on est habitué d'arriver à côtoyer et d'expliquer une thèse. Vous savez, souvent on plaide pour des gens qui sont coupables et qui reconnaissent leur culpabilité, et puis on essaie d'expliquer cette culpabilité et qu'elle soit jugée au plus juste finalement de ce que la peine vaut et de ce que la peine mérite. Donc c'est vrai que c'est un métier difficile, mais on l'aimait, et Jean-Yves Boyard l'adorait.
On va revenir dans un instant d'ailleurs sur un point lié à ça. Une question sur cette passion qu'avait Maître Mot pour les réseaux sociaux, qui lui offrait une grande popularité numérique, notamment dans le monde des avocats.
Ah, Jean-Yves, il était hyper populaire sur Twitter, c'est-à-dire qu'il avait des gens partout en France qui le suivaient, avec lesquels il discutait. En plus, il était insomniaque, donc il parlait avec eux aussi la nuit. Et puis, il y a eu sa maladie, donc c'est vrai qu'il se confiait. C'était aussi, peut-être, j'en sais rien, mais peut-être un échappatoire, ou en tout cas, une façon peut-être de penser à autre chose. C'est vrai qu'il était très populaire sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis mis, pour une anecdote, je vais vous le dire, je me suis mis à Twitter pendant la période du confinement. Beaucoup de gens s'étonnaient en disant « c'est pas lui ». Il m'a estampillé en disant « si, si, c'est lui, parce que il m'a validé mon inscription, vous voyez ». Et donc, à partir de là, il n'y avait plus du tout d'ambiguïté sur mon appartenance. Mais en réalité, c'était quelqu'un qui touchait à tout. Il touchait à la défense pénale, il a écrit un magnifique livre qui fait l'objet de vos émissions. Il était très riche de curiosité et d'envie. Voilà, je crois que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il communiquait beaucoup avec les gens sur Twitter.
Je voudrais, Franck, revenir sur un point précis qui, moi, m'a beaucoup intéressé et sur lequel je voudrais vous entendre. Quand il prend cette affaire sordide, qui consiste donc à défendre Noël en tant qu'avocat, il écrit ceci: je suis jeune avocat, je veux défendre des types comme lui le plus possible toute ma vie. Et je me dis que les gens qui ont entendu ça ont beaucoup de mal à le comprendre. Est-ce que d'abord vous, jeune avocat, vous avez eu ce même sentiment, cette urgence à défendre des types difficilement défendables?
Je crois que c'est le lot de tous les jeunes avocats, Christophe. On commence toujours par la défense à la commission d'office de cas désespérés, de gens qui n'ont rien finalement à offrir, si ce n'est leur malheur, leur désespoir et leur détresse. Et donc on est confronté à cette défense finalement de ces individus, un double enjeu, un double pari. À la fois d'expliquer pourquoi ils ont le droit à une défense, et ça c'est constitutionnel, c'est le principe de base de la démocratie, et ce qu'il y a à défendre par ailleurs, ce qu'on doit dire pour réhabiliter ces hommes et les ramener dans la communauté des hommes. C'était ça que Jean-Yves, je pense, veut dire et a toujours voulu dire à la défense de ces hommes et de ces femmes qui étaient finalement des pauvres, mais qui il avait envie de les ramener dans la communauté des hommes, et c'est le principe même de tous les avocats pénalistes. Vous savez, souvent on voit le pénal comme étant la défense parfois de personnages célèbres, d'hommes politiques, de gens connus. La plupart des gens que nous défendons aux assises sont des gens avec une vie ordinaire, désastreuse et brisée, et qui il faut essayer de la ramener dans cette, moi, ce que j'appelle cette comité des hommes. Et donc ça, c'est le principe de base de notre défense, qui est en effet une défense parfois ardue, compliquée, parce que tous les jours, on nous dit, dans n'importe quel repas, mais comment faites-vous? Comment pouvez-vous défendre l'indéfendable? Comment peut-on être les avocats de la dernière chance, les avocats du diable? Je le redis, nous ne sommes pas les avocats du diable, nous sommes tout simplement des avocats. Et Jean-Yves Moyard s'inscrivait dans cette lignée d'avocats qui croient qu'en effet, il ne faut jamais désespérer de la nature humaine, jamais désespérer de l'autre. Parce que l'autre, un jour ou l'autre, il redevient vous, et en tout cas proche de vous.
Mais il y a une part de folie là-dedans, on peut le reconnaître tous les deux?
Oui, il y a une part de folie, parce que c'est se heurter parfois à l'incompréhensible, à l'incompréhension, à quelque chose qui est difficilement admissible de la part des autres, parce qu'il ne faut pas oublier que ils sont jugés par d'autres hommes, et qu'il est toujours difficile par les autres d'essayer de se mettre à la place de celui qui est dans le box. Mais c'est de la folie, mais c'est de la folie, j'ai envie de dire, intelligente, et puis de la folie qui nous ramène quand même au vivre ensemble. Il est nécessaire de comprendre l'autre pour essayer de se comprendre soi-même.
Est-ce que cet intérêt pour ces types qui ne sont pas des monstres, vous avez dit, mais qui ont quand même commis des choses qui sont monstrueuses, a quelque chose à voir avec la fréquentation de la misère? Un petit peu comme un type qui s'engagerait à être à Emmaüs, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce que être cette trempe d'avocat, c'est un peu être une sorte d'abbé Pierre de la justice?
Je crois que chez Jean-Yves Moyard, c'était une réalité. Jean-Yves, il prêtait sa voix. Il le dit dans son livre « Son cœur et son amour » aussi, parfois, et c'est rare, aussi à la défense de ces gens. C'est jamais sans risque, hein, vous savez, parce qu'au bout d'un moment, on peut aussi désespérer, on peut se fatiguer et on peut en avoir marre, parce que c'est pas là-bas que, et c'est pas la défense de ces gens-là que vous avez des résultats. Parce que très souvent, les peines sont très lourdes et très conséquentes. C'est vrai que ça peut paraître, hein, comme étant un peu humanitaire, un peu, finalement... dans la main qu'on donne et qu'on accompagne, mais voilà, c'est aussi une vocation de certains avocats de venir dire « Moi, ça, c'est ma vocation, c'est ma foi, et c'est le serment que j'ai prêté, que je veux honorer. » Et Jean-Yves Moyard, il faisait partie de ces avocats qui honoraient ce serment avec dignité.
Qu'est-ce qu'il disait le soir après un procès, Jean-Yves Moyard?
Oh, il disait souvent « On va aller boire une bière.
Hein. » il avait une autre expression, il disait « Une coupette ».
Une coupette, oui, mais c'est vrai que c'était sa coupette, c'était quelque chose qui aussi l'a rendu célèbre, vous savez, sur les réseaux sociaux.
Oui.
Hein, parce que il faut aussi, sortir de ce qui est lugubre, de ce qui est compliqué, de ce qui est difficile, pour essayer de revenir à la vie un peu plus festive. Et Jean-Yves, il aimait bien la vraie vie, il aimait bien aussi la vie. Malheureusement, il est parti et c'est une déchirure. C'était un ami, c'était quelqu'un qui... Moi, j'ai eu la chance de le connaître et voilà, je pense aussi aux gens qui sont restés de sa famille, de sa femme et de ses enfants. Voilà, c'est quelque chose de terrible parce que la mort l'a emporté.
Eh bien, buvons une petite coupette à sa santé tous les deux.
Oui, buvons une coupette. Oui.
Chine, merci Franck Berton, merci infiniment.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.